Après le rappel des fondements traditionnels, évangéliques, apostoliques, et puis ce chemin au cœur de, voilà, de reposer ces définitions de la terre monastique, de ces visages qui accompagnent nos marches, et puis autour de l'évicasme, peut-être maintenant entrer plus dans une pratique à travers différents mondes, différents noms, différentes postures. Et là, on se propose donc un temps de 3 quarts d'heure, hein, puisqu'on disait avec Stéphane, peut-être qu'on arrêterait vers 17h15, hein, pour qu'il y ait aussi un temps de questions, de questions-réponses éventuelles, jusqu'à 6h-10. L'expérience, donc, alors, nourrie par ce que nous avons déjà abordé dans cette attitude intérieure, à travers les visages ce matin évangélique, et puis les quelques, la marche aussi, le pèlerinage en compagnie des pères et mères qui nous précèdent. Du coup, on va pouvoir entrer dans une pratique ou une méthode, hein, une méthode pour peut-être inscrire, hein, voilà, quelque chose de très concret dans nos rendez-vous maintenant, dans ce groupe éventuel qui serait donc en appel d'être créé, mais après trouver le lieu, trouver les personnes qu'un tel projet peut intéresser, pour vraiment former un groupe de prière, hein, donc dans la région ici, nourri donc de cette pratique, de ces fondements traditionnels. Donc on retrouve vraiment là donc toute cette posture, nous l'avons rappelé tout à l'heure, où le cœur a une place particulièrement importante. Donc prière à Jésus ou prière de Jésus, hein, donc on va le voir, qui est vraiment d'abord et avant tout une invocation du nom, hein, pour certains important, ce nom de Yeshua, on en dira quelques mots tout à l'heure. Et finalement, toute cette prière, toute cette manière d'honorer, de se tourner vers la source unique, va donc se formaliser, se mettre en forme progressivement autour de la répétition du nom de celui qui est venu nous faire l'exégèse de ce mystère trinitaire, qui est donc le nom de Yeshua. Pour nous chrétiens, c'est vraiment l'incarnation à travers ce visage. Et puis on a également rappelé, on en dira peu de mots, également l'importance, à côté de l'invocation du nom de Jésus, toute cette grande tradition de la garde du cœur. Vous vous rappelez ce constat de lucidité de la bien-aimée du Cantique des Cantiques, « Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. » Et le malheur, nous la rappelions tout à l'heure, c'est l'oubli de la garde. Il nous a été confié de manière ontologique un jardin à cultiver et à garder, ce jardin du bonheur, ce jardin du bonheur, ce jardin de la réjouissance dans le lieu profond du cœur. Et les conséquences de l'arrachement, de l'exil, de cette catastrophe originelle, eh bien, c'est en fait qu'on n'a pas gardé, on n'a pas cultivé le jardin du bonheur. Jardin comme étant ce lieu ontologique d'épousaille de l'âme humaine avec son Seigneur, de l'âme humaine avec ses propres profondeurs, et tout le jardin, enfin je dirais tout le chemin des mystiques, c'est de retrouver ce jardin des délices, hein, tellement thématisé de manière poétique dans le Cantique des Cantiques, c'est retrouver ce lieu de l'union, de l'alliance. Et donc vous vous rappelez que tout le chemin qu'on vit au cœur de notre baptême, par exemple dans les fonts baptismaux, eh bien c'est ce lieu où on va d'abord purifier le cœur, le sens de l'immersion dans l'eau, c'est la purification de la coupe du cœur, ce réceptacle du cœur, pour permettre l'illumination à travers la chrismation, ou le don de l'Esprit-Saint, pour aller après vers l'union, la communion. Donc ces trois étapes qu'on dit dans le baptême sont trois étapes du devenir de l'âme, se donnant à son Seigneur, donc d'abord extériorisé, en appel d'être purifié, d'être nettoyé, d'être lavé, la coupe du cœur, pour qu'elle puisse devenir cette grande place nue, laissant la place à la lumière. Et là, dans cette illumination, entrer dans le processus de l'union. Hein, tout le processus de métamorphose, de ce devenir de l'âme, est inscrit là. C'est pour ça que le cœur a cette place centrale. Hein. Garde du cœur, garder le cœur. C'est-à-dire régulièrement se retrouver en posture d'être sur un promontoire, prendre de la distance par rapport aux événements qui nous traversent, et donc d'avoir une posture d'observateur non impliqué. Ah tiens, ça réagit. Ah tiens, enfin, le lien avec ce monde émotionnel hein, qui nous habite, donc cette garde du cœur hein, qui peut être très très précisément, enfin, qui est vraiment une musculation, c'est un exercice au quotidien pour ne plus être submergé par ces déluges émotionnels qui vont se manifester par des tsunamis extérieurs. Les tsunamis aujourd'hui que nous vivons à l'extérieur, c'est la conséquence de tous ces déversements de boue psychique émotionnel que nous vivons dans nos vies intérieures. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur à un moment donné, hein, c'est la même chose. Donc c'est la conséquence hein, de cette... apprendre à réorienter, à habiter, à dominer de l'intérieur hein, tous ces mouvements de colère, de réactivité, tout ce qui peut nous habiter, de possession, de jalousie, de rejet, enfin voilà. Même si ça peut être psychologiquement et émotionnellement à un moment donné normal, mais à un moment donné, de prendre un peu de distance et de replacer cela dans cette dimension spirituelle hein, pour être faiseur de paix, artisan de paix. C'est tout le chemin, toute l'ascèse, l'exercice au cœur de notre relation de couple avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs, au niveau professionnel, enfin, vous sentez bien au niveau de nos paroisses, hein, c'est tout ce qui se passe, je dirais de notre travail d'accomplissement. Alors, on va reprendre pour cela, au niveau de la méthode, quelques aspects de ce qu'on retrouve au niveau du pèlerin russe. Vous vous rappelez cette grande question du pèlerin qui va le mettre en marche de manière très profonde au moment où il rentre dans une église et où il entend cette première épître aux Thessaloniciens, prier sans cesse. Comment est-ce possible de prier sans cesse? Comment est-ce possible? Donc là, il y aura tout un ensemble d'interprétations de la tradition patristique autour de cette parole. Cette présence consciente, à la fois travailler, être à la fois avec les autres, et en même temps, dans l'arrière-plan, il y a toujours la sensation d'une prière, d'une présence qui est là. Bref, en tout cas, vous vous rappelez comment, devant cette question fondatrice qui va creuser la soif de ce pèlerin, eh bien, il va rencontrer un jour ce Starets, hein, cet ancien expérimenté, et qui va lui dire, en feuilletant la Philokalie, donc il se fonde sur une transmission, une tradition qu'il a lui-même reçue, hein, c'est pas une invention, il se fonde sur toute une tradition qu'il a reçue, et donc en ouvrant hein, la Philokalie, il ouvre un passage, je crois, autour de Saint Siméon, le nouveau théologien, ou d'autres, et donc il a inscrit là une parole que certains connaissent. Voilà, si tu veux apprendre à prier sans cesse, demeure assis, dans le silence, dans la solitude. Incline la tête. Hein, ce qui naturellement fait que dans cette incline de la tête, il y a la nuque qui s'ouvre derrière. Hein, on n'est pas le mouvement énergétique se libère derrière. Et puis surtout, on a cette dimension que la tête se penche vers le cœur. Hein, il y a déjà ce lien du rapport entre la tête à faire descendre dans le cœur. Hein, cette posture, ferme les yeux, hein, ou laisser les yeux ouverts, en tout cas le regard tourné vers l'intérieur. Respire plus doucement. Hein, donc ce lien à la respiration, hein, et là on le sait aujourd'hui, hein, dans une psychosomatique très un peu de base, combien, nos émotions agissent sur notre souffle et inversement. Regarde par l'imagination à l'intérieur de ton cœur. Rassemble ton intelligence, c'est-à-dire ta pensée, de ta tête dans le cœur. Vous sentez ce qui est privilégié dans la transmission, cette tradition, c'est le cœur. Hein, on en dira quelques mots tout à l'heure. Dis sur la respiration, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Kyrie eleison, gos podi pomelo, donc en slavon, à voix basse ou simplement en esprit. Et efforce-toi de chasser toutes les pensées, certains diront de les faire. Plus on va les chasser par moment et plus elles reviennent. Hein. Je ne sais pas si on fait l'exercice, mais laissez-les passer. Ne pas s'y agripper, je dirais. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Hein. C'est une expression qu'on retrouve dans la tradition du bouddhisme zen ou d'autres. Voilà, les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Hein. Sois patient et répète souvent cet exercice. Donc ceux qui ont lu ce pèlerin russe hein, savent combien il y a là donc développé toute une approche, une pratique étonnante hein, et assez rapide finalement hein, de la prière du cœur avec donc hein, ce starès donc qui va donner à son disciple. Voilà, ce chapelet, hein, donc cet instrument de prière, hein, chiotki en slavon ou kambouskini en grec. Voilà, le chapelet, si vous voulez, c'est le moment hein, où ce chapelet, c'est une corde de rappel. C'est comme si une corde de rappel où on descend dans le cœur et on fait un peu comme un spéléo, on descend et en fait on est relié à tous ceux et celles qui nous précèdent. C'est vraiment une corde qui nous relie aux premiers de cordée, hein, qui ont été ces pères et ces mères, dont on a revu un peu les visages tout à l'heure. Et donc, avec ce chapelet, hein, on égrène l'invocation du nom. Et ce chapelet, c'est intéressant parce que vous le verrez, si on expérimente, hein, à quel point le fait d'égrener, le fait d'avoir une activité au bout des doigts, ça apaise le mental. C'est physique, hein. Il y a vraiment une sensation d'une activité à la fois avec la pulpe des doigts, donc cette dimension donc, du chapelet hein, qui est là, qui donc devient, donc en même temps, ça permet de repérer le nombre, hein, je dirais, d'invocations, et donc vous rappelez combien ce pèlerin est initié jusqu'à après avoir 3000, 4000, 12000 invocations par jour, qui correspond, vous ferez le compte, à une invocation par respiration. En fait, il dit le nom de Jésus sur chaque aspiration. Hein, mais il y a une progression. D'abord, c'est 1000, 2000, 3000. Donc, il y a toute une école de la prière. Hein, donc, où vraiment, si vous voulez, ce qu'on peut offrir, nous, aujourd'hui, dans l'incompétence, parce qu'on ne sait pas prier. On ne sait pas prier. On est tellement atomisé, on ne sait pas prier. Ce qu'on peut donner, c'est le temps. Ce qu'on peut offrir, c'est le temps. Et dans ce temps, eh bien, on va appeler, invoquer l'Esprit-Saint pour que l'Esprit-Saint puisse venir suppléer à notre effort. Et cet effort, c'est quand même, on va le voir, construire une structure intérieure régulièrement, hein, donc on va maintenant le repositionner comme une méthode hein, qui nous permet donc de... Mais en même temps, si on ne compte que sur nous, hein, sur l'effort humain, on ne sait pas prier. On est tellement atomisé, tellement dans le mental, et puis on ne sait pas ce qu'on demande, enfin souvent on n'est pas... Hein, qu'on laisse l'Esprit-Saint venir prier en nous. Mais ce n'est pas sans l'effort de l'homme. Hein, vous vous rappelez, cette prière, hein, c'est un petit peu comme un oiseau, avec ses deux ailes de l'oiseau, l'effort de l'homme et la grâce de l'Esprit. C'est les deux ensemble, ce qu'on appelle la synergie, hein, dans la tradition orthodoxe. Donc, c'est une approche donc, qu'on retrouve dans le pèlerin russe. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai décidé un petit peu à la fin de notre journée, c'est peut-être pour être un peu plus parlant, de vous signifier... Alors, souvent, vous savez, chez les anciens, quand il y a quelque chose à signifier, les anciens, ils sortent des échelles. Dans la Bible, c'est assez étonnant, ils sortent des vieilles échelles des greniers. On retrouve donc l'échelle de Jacob, dans le songe de Jacob. On retrouve aussi l'échelle de Saint Jean Climac. Les anciens ont beaucoup cette notion de susciter en fait des échelles pour signifier un chemin, une méthode. Donc l'échelle qui relie la terre et le ciel, où les anges montent et descendent. Hein, encore une fois, les anges ne sont pas pressés de nous rendre nos ailes dans des formes de décollage. Hein, l'ange nous incarne. Hein, il nous fait descendre dans nos profondeurs pour qu'on retrouve nos ailes dans nos corps les plus incarnés, je dirais. Hein. Donc les anges montent et ils descendent. Hein, donc ces échelles sont vraiment à entendre comme étant des lieux qui nous aident à faire l'union, le lien entre l'incréé et le créé. Le ciel et la terre. Vous sentez, pour nous, le christianisme, c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est comment tenir nos échelles d'humanité et tenir ensemble la terre et le ciel, Dieu et l'homme. Et pour certains, pont d'école, la terre est compliquée, difficile, on a du mal à l'enracinement, et au contraire, pour d'autres, c'est tellement pesant dans la terre qu'on oublie, nos racines célestes. Le grand enjeu, c'est vraiment tenir ensemble les deux. C'est dans notre corps, colonne vertébrale, enfin, c'est toute l'ensemble de... Et donc, ce que je propose, c'est de vivre, alors peut-être avec une échelle, moi, qui m'a assez saisi quand je l'ai rencontrée, cette échelle, même si elle est un petit peu noirâtre, certes, mais elle définit quand même des étapes qui nous conduisent vers un lieu de pure lumière. Donc c'est vrai que c'est un petit peu figuratif, hein, c'est très imagé. Et en même temps, on a l'impression que soit on y descend, soit au contraire on monte. Hein, dans la posture géographique, on n'a pas trop l'impression, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est cet appel à traverser les matières grises de nos humanités et tout le chemin dans nos pratiques méditatives ou contemplatives, avec le chapelet au passage qui va nous aider à ça. C'est comment, dans l'invocation du Saint-Nom, dans l'invitation à avoir des matières grises moins prégnantes, on va progressivement laisser passer nos pensées et descendre ou monter au sommet de la montagne ou dans les profondeurs du cœur, en tout cas rejoindre le grand bleu ou la grande lumière de l'être calme, tranquille, hein, ce lieu d'incandescence, ce lieu intérieur, ce fond de l'âme, ce fond de l'être. Certains parleront du nous, hein, de la parole grecque, une multiplicité de mots dans la tradition mystique pour signifier ce lieu. Est-ce au sommet de la montagne? Est-ce dans les profondeurs du cœur, avec une montagne inversée? En tout cas, un lieu où l'être qui est ce qui est rencontre l'âme, dans la dimension de la mystique, hein, de l'union de l'âme. Hein. On est vraiment là, et là, c'est la paix, c'est la joie, c'est la rencontre avec des moments de clarté, de vastitude, hein, d'éveil, hein, qu'on peut rencontrer. Donc la méthode maintenant, c'est comment faire, comment créer cette échelle, comment régulièrement essayer de repasser par différentes étapes qui vont donc permettre régulièrement de rejoindre ou de refréquenter ces lieux. Première question qui va être importante pour nous dans un chemin de prière, mes amis, question du désir. Est-ce qu'on le veut vraiment? Grande question. Parce que, oh ouais, on va prier, mais si on n'est pas au clair avec le désir qui nous habite, profondément, eh bien, pour un lieu de prière, par exemple, à terme, on le sent que si notre désir n'est pas vraiment, si on n'est pas en lien, en communication avec notre plus intime désir, qui va susciter une forme de motivation et une forme de fidélité dans la pratique, si on n'est pas inscrit vraiment dans le désir, on va se rendre compte qu'on va commencer, puis pouf, feu de paille, ça ne tient pas. Il y a une espèce de mode, bon, donc on va le faire, mais quelque part, on n'est pas en lien avec qu'est-ce que nous voulons vraiment? Qu'est-ce que nous voulons vraiment aujourd'hui? Ça, c'est important. Et vous savez qu'en rejoignant cette question, on rejoint ce nom d'Adam, qui est pétri de désir, qui est tissé de désir. Et dans le mot Adam, en hébreu, Aleph Dalet Mem, rappelez-vous, Ed, c'est la vapeur. C'est la vapeur. Avec même l'origine, la matrice, l'être même qui est le M. Et qu'est-ce que c'est que cette vapeur, en fait? Mais cette vapeur, c'est en fait le désir de l'homme qui monte vers son Seigneur. Et c'est caractérisé dans la nature par la rosée. C'est en fait ce feu qui monte des profondeurs et finalement ce feu qui signifie, je dirais, cet amour, cette vapeur qui monte de la terre, hein, cette nuée qui monte de la terre. Et ça signifie le désir que l'homme a de rencontrer son Seigneur. Où en sommes-nous aujourd'hui de cela? Et un groupe, fonder un groupe, ça implique de nous poser la question. Parce que c'est trouver une pièce, c'est s'investir, c'est un engagement. Où en est-on vraiment de notre désir? Ce désir d'absolu, ce désir de nous engager, de donner notre vie à cette quête d'absolu. Donc de participer, est-ce que cette immortalité, cette éternité de Dieu, c'est vraiment ça que nous voulons, au-delà même de nos désirs, voilà, ces désirs existentiels qui sont très beaux, qui sont très bien. Et Jésus, rappelez-vous, en lien avec ces grandes paroles d'Éloi Leclerc, hein, ce prêtre franciscain, Jésus travaille le désir, c'est le maître du désir. Et il ne s'oppose pas au désir humain, tellement tangible et tellement beau, mais il nous rappelle que nous sommes créés pour un désir plus grand que manger, que travailler. Ne travaillez pas uniquement pour ce qui nourrit la vie mortelle, travaillez aussi pour ce qui nourrit la vie éternelle. Et chacun d'entre nous, parfois, on meurt de faim au niveau de certains corps, de silence. On peut être nourri, voilà, on l'a rappelé, intellectuellement et affectivement, nourri, substantiellement. Mais il y a un lieu qui n'est pas nourri. Il y a un lieu où on meurt de faim et de soif. Qu'est-ce que vous donnez comme nourriture à ce qui nourrit la vie éternelle? Cette vie qui ne passe pas. Et que votre vie aujourd'hui, que notre vie, le peu de temps qui reste, je m'excuse hein, de vous dire ça, ça peut être des décennies, mais c'est rien en fait au niveau du monde. Le peu de temps qui nous reste, qu'on puisse au cœur même de notre vie mortelle faire advenir un peu plus de vie éternelle. Cette vie, communier, donner, retrouver ce sens d'une vie qui ne passe pas. Et c'est pas maintenant, c'est aujourd'hui, dans l'instant, communier à la sensation d'une vie qu'on ne pourra jamais nous prendre. C'est une vie invincible. Hein, donc, passer du temps, nourrir cela, ça demande du temps. Ça demande de prendre soin. Hein, donc, l'importance du désir en lien avec ce qui fonde l'Adam ontologiquement. Parce que ce désir, deuxième étape, va du coup être fondateur d'une décision à poser, avec des choix et donc des renoncements, forcément. Et donc la notion d'engagement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 l'engagement. L'engagement. L'engagement qui souvent peut être vécu comme une forme d'esclavage ou d'enfermement, alors qu'en vérité c'est un lieu d'interdépendance, un lieu de liberté. Hein, cet engagement, bon, ça va aussi, vous savez, avec nos vies paroissiales aussi, hein, avec nos vies existentielles, nos vies en église, qui fait que par moments, ben, même si on n'a pas forcément envie, je dirais, d'aller le dimanche communier ou de retrouver la paroisse, mais souvent, justement, le lieu de l'église, c'est ce lieu où, s'étant engagé, on est co-responsable aussi, et on va offrir à ce moment-là notre présence au corps de l'église. Hein, donc, il y a un engagement. Il y a un engagement dans une forme de co-responsabilité. Donc là aussi, c'était vraiment régulièrement, désir, décision, simplement des mots qu'on aura à raisonner régulièrement dans ce chemin de l'avènement de la prière, du groupe de prière, de ce qui nous interroge. Voilà, la décision. J'y vais ou j'y vais pas. Et puis surtout, à partir du moment où mon désir est là, mieux clarifié, je vais donc poser très clairement des choix qui vont faire que je vais aller là ou là. Mais je ne pourrais pas aller dans les... Enfin, il y a forcément des choix, des renoncements. Donc vous sentez ce lien à la décision. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, ça peut vraiment signifier quelque chose, je dirais, d'une... On y va. Ce lieu d'engagement. Voilà, et là, si on n'y va pas, ben, vous sentez bien, on reste un peu de la tiédeur. Je ne sais pas comment dire, on est un peu là, j'y vais sans y aller, enfin, Bon, puis si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Enfin bon, peut-être que d'abord dis-moi comment, et puis après je te dirai peut-être oui. Enfin, on sent bien à la rassurance ou la négociation qu'on se fait tous, enfin, dans le chemin. À partir du moment où on a décidé, et on est en lien avec son désir, donc ça a été un peu le sens du chemin d'aujourd'hui, c'est l'invitation à une affiliation. La grande question qui vient, c'est comment? Maintenant, comment faire? Comment faire? Montrez-moi maintenant le chemin, les clés. Montrez-moi des êtres, des hommes, des femmes dans l'histoire qui peuvent m'aider. Donc c'est le lien à l'affiliation. Retrouver ou reconnaître une terre spirituelle. À la fois, c'est nous qui décidons, et en même temps, je crois que la terre nous appelle. Arrive un moment dans notre vie où c'est vrai qu'après avoir vécu plusieurs chemins, voilà, bon, plusieurs étapes, ou plusieurs milieux spirituels, vous sentez bien, on a la sensation que notre arbre d'humanité appelle une terre spirituelle pour grandir, enracinement. Et dans cette terre spirituelle, on sait aussi qu'on va pouvoir déployer cette humanité et on va recevoir la bénédiction d'hommes et de femmes qui nous ont précédés sur le chemin, donc dans le sens d'une tradition. Hein, donc, vous sentez, c'est une forme de cohérence, désir, décision. Donc la question qui vient maintenant, c'est comment? Comment faire? Et donc, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a rappelé aujourd'hui. C'est un peu notre chemin, hein, cette descente d'eau vive, cette source d'eau vive, cette inspiration de l'esprit, comment donc elle va s'articuler dans une forme donnée à travers ces différents passages évangéliques et puis cette grande tradition après des lettres de prière dans ce courant de notre vie existentielle. Hein, donc voilà, et là on va se nourrir de ces hommes, de l'enseignement, de ces êtres, d'une tradition qui nous bénit, qui nous protège, qui sont aussi comme des garde-fous pour nous valider. Donc le sens à l'affiliation. Et puis, donc nous l'avons vu tout à l'heure, ce que cette tradition va nous signifier, mes amis, le premier exercice incroyable au niveau spirituel qu'il nous demandait, c'est assieds-toi. Là où on voulait peut-être parler d'élévation spirituelle, on nous dit descends dans le corps. Ça, c'est incroyable. Ce grand exercice de la prière, d'abord et avant tout, ça commence par assieds-toi, dans la solitude, dans le silence. La notion de l'assise, de l'enracinement. Hein, vous le savez, c'est très intéressant parce que là, on va rejoindre très concrètement, ça a été très bien signifié dans la transmission qu'avait reçue le père Jean Séraphin, par ce moine du Mont Athos, hein, le père Séraphin, justement, cet être très éclairé, qui en fait redécline à travers ces différentes étapes de la prière, bien mes amis, la réintégration des différents règnes dans notre propre monde intérieur. Et retrouver l'assise, si vous voulez, c'est retrouver le sens du monde minéral en nous. Retrouver la prière du monde minéral, de tous les minéraux. Retrouver la prière de notre charpente osseuse, de notre structure osseuse, dans nos bassins. D'ailleurs, à ce propos, on le verra demain, lorsqu'il est dit dans les grands commandements, les deux grands commandements de l'amour, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps. Le mot corps en grec, c'est ischios, de tous tes ischions. Je ne sais pas comment ça vous fait, vous aimez Dieu par rapport à partir de nos ischions. C'est étonnant, hein, comme expérience. Hein. C'est le mot grec qui est là. À partir de son bassin, à partir de ses os. Ça irait jusque-là, je dirais. Hein, donc c'est vraiment retrouver, et là, ce beau moine-là qui est là, donc sur sa chaise, assis, hein, vraiment, c'est vraiment le lien avec la matière, avec l'enracinement. Hein, donc, dans les pratiques du père Francis, hein, enfin, du père Alphonse, hein, bien sûr, et puis la grande tradition qu'on vivait à Béthanie aussi beaucoup avec Graf Durkheim, hein, c'est le hara, enfin, je dirais, hein, c'est l'assise dans le bassin, d'abord ouvrir, hein, voilà, cette puissante assise, hein, de reconnaissance de cette fondation qui nous habite. Mais ça a été beaucoup oublié en Occident, hein, où on a beaucoup souvent prié on a oublié parfois cette dimension. Prière du monde minéral, donc gravitation, être là, de tout son poids de matière pour assumer. Donc l'incarnation. On va entrer. La deuxième exercice après l'incarnation, donc moment de prière, moment de méditation, moment de reprise de contact avec le corps. Vous vous rappelez, l'autre barreau de l'échelle, c'est de se rappeler que notre prière, ce n'est pas uniquement une matière lourde, c'est une matière orientée. Ce sont des images, encore une fois, tout ça. C'est pour vous inviter à vous-même vous approprier une méthode, plutôt que de dire exactement comment il faut faire. Je crois que ce sont des images qui vont aider. Je pense qu'il y a d'abord la prière du monde minéral, on s'inscrit, on s'assoit, on s'enracine, et en même temps, il y a cette ouverture, cette orientation. Et ce n'est pas anodin que les moines du mot Athos, souvent, sont appelés des tournesols de leur posture. Tourner vers le soleil. Ce soleil intérieur. En tout cas, tourner leur corolle d'humanité. Donc cette humanité tournée vers le Seigneur nous fait aussi entrer dans un exercice important pour nous aujourd'hui, qui est l'exercice de l'orientation et de la philokalie, mes amis, et particulièrement dans les temps d'aujourd'hui où nous pouvons parfois désespérer du monde, n'oublions jamais l'importance, au quand même des événements que nous vivons, de trouver toujours l'espace de beauté et de lumière. Et qu'on aurait tendance psychiquement, parfois, nourri par des mécanismes d'information bien manipulés, à toujours nous montrer ce qui ne va pas au cœur du monde. Et que là, il y a un processus très subtil d'envoûtement, je dis tel quel, au niveau des pensées, qui fait qu'on est submergé et envoûté par un mode de pensée à force de regarder toujours ce qui ne va pas. Et on devient ce qu'on regarde. Regardons le chaos, et on devient le chaos. Vérifiez. On regarde la lumière et la beauté, et on devient cela. Et un des grands exercices de santé pour nous aujourd'hui, c'est vraiment au cœur même du difficile et du douloureux. On le sait bien, tout ça, on ne fait que répéter, mais c'est vraiment de regarder cet espace de liberté, cet espace de lumière, cet espace de beauté. Je suis noir. Oui, mais je suis belle. Le cantique des cantiques. Et parfois, on ne reste que sur « je suis noir ». Et là, on y va, quoi. On diabolise l'autre, enfin voilà, ou même soi-même, enfin encore une fois. Et en même temps, on n'est pas non plus tout beau. C'est pas vrai non plus. Ça fait illusoire. Lucidité et reconnaissance de la beauté. Donc là, il y a un exercice profondément dans notre vie quotidienne, en lien avec la prière. C'est de nous... je dirais de nous retirer de la fascination attractive, je dirais parfois, de ces mauvaises nouvelles qui hantent le monde, pour retrouver cette orientation pour laquelle on a été créé. Tournesol, tourner vers le soleil, tourner vers le Christos, vers ce soleil intérieur. Et d'ailleurs, invoquer le nom de Jésus, on va le voir, comme maître extérieur, en vérité, sert à éveiller le maître intérieur, pour que nos cellules tournent à l'intérieur. Elles s'assoient et elles tournent désormais vers la source de tout ce qui vit et respire. C'est vraiment un chemin d'espérance, c'est un exercice au quotidien, cet amour du bon et du vrai. Une prière donc, là on est vraiment dans la prière du monde végétal, mes amis, mine de rien. Et là, on peut parfois être étonné comment le monde végétal, comment certains végétaux utilisent, en sortant des sous-bois, si vous voulez, des chemins tortueux pour offrir leur corolle ou leur feuillage au soleil. Et là, mais on sent tout le chemin qu'ils vont avoir à faire. On pourrait dire que là, il y a un héliotropisme naturel pour la plante. Eh bien, nous avons un théocentrisme naturel, un théotropisme naturel, qui a été brisé, qui a été piétiné, mais sachez-le, on est créé pour ça. On a un théotropisme naturel. On est créé pour ça. C'est comme une plante. C'est faire vivre la prière du monde végétal en nous. colonne vertébrale. Et cette ouverture vers le beau, le bon et le vrai, vers la source. Et ça, on manque de ça. Moi, j'étais parfois souvent très étonné, lorsqu'on est très contacté à Saint-Michel, enfin, moi j'étais beaucoup à un moment donné, à travers les processus d'envoûtement, hein, de mal qu'on nous fait. Et mes amis, dans ce mal qu'on nous fait, il y a beaucoup d'auto-envoûtement. Vraiment. Alors, il y a la réalité, je dirais, de travail, de travaux occultes, hein, qui existent vraiment, mais la manière dont je dirais, on dit à Marseille, dont on s'en pègue, ça colle, c'est mauvais, c'est penser toujours voir le noir, toujours voir ce côté un peu parano qu'on peut avoir par moment, et c'est un truc qui est très collant dans nos matières, hein, et vraiment, ça nous assombrit, ça nous enténèbre, et c'est très pesant, hein, donc il y a un exercice très, très important là. Donc, l'incarnation, monde minéral, orientation, cette prière du monde végétal. Retrouvez cela. Après, autre approche qui va venir, c'est qu'on se découvre que cette matière prière dont il est question, ses racines, son déploiement, et en même temps, c'est une matière qui est respirée. La respiration. Respiration divino-humaine. Seigneur, tu envoies ton souffle. Hein, fin du psaume 104 ou 105. Tu envoies ton souffle. Je suis inspiré. Et tu recrées la face de la terre. Seigneur, tu envoies ton souffle. Tu retires ton souffle. Je suis expiré. Et vers la poussière, je me retourne. Hein, c'est vraiment le déploiement du mouvement respiratoire. Eh bien, c'est ce que certains vont signifier comme la méditation des vagues de l'océan. On est une plage, et les vagues de l'océan du souffle nous visitent, nous inspirent, et se retirent. Voilà. Il y aurait pratiquement cette image à avoir. Nous sommes une plage recouverte par un souffle, et le Seigneur se retire. C'est vraiment le sens de l'inspire et de l'expire. Et là, nous sommes respirés, nous sommes inspirés. Hein, c'est tout le sens, donc, de cet apprentissage, hein, en esprit, en vérité, dans le souffle et dans la vigilance. Hein, donc, c'est vraiment ce grand rythme respiratoire. Et le Seigneur nous visite. Il expire en nous, et nous, qui recevons le souffle, comme un ballon qui est gonflé, nos poumons sont gonflés. On est inspiré. Et après, il nous aspire et on est expiré. Vous sentez un peu le centre de gravité, c'est plus moi. On est respiré. Hein, on est inspiré, expiré. Et on participe de la grande respiration divino-humaine. Il y a quelque chose qu'il y aurait à trouver dans l'adoration, tel que le veut le Père. Dans les grands messages contemporains, le Seigneur demande à ce que chacun d'entre nous, nous laissions respirer l'Esprit Saint dans nos profondeurs. Laisser la place. Le laisser respirer en nous. Laisser le passage, justement, à ce souffle. Laissez-moi respirer en vous. Laissez le grand souffle s'accomplir. C'est plus qu'il faut faire, c'est vraiment laisser faire, hein, ce grand souffle. Et puis, ce qu'on va découvrir dans ce va-et-vient du souffle, donc l'importance de la respiration, la physiologique et tout l'impact que ça peut avoir au niveau des corps spirituels, psychologiques et physiologiques. Mais c'est dans ce souffle, mes amis, qu'on va voir s'éveiller aussi une autre dimension après qui vient, c'est l'invocation. Vous savez, il y a quelques 3-4 ans maintenant, grâce aux études d'un physicien contemporain d'origine juive, Joël Sternheimer, on a découvert que nos protéines chantent. Ah oui? Vous ne savez pas? Si, je vous assure, les protéines chantent. En fait, En fait, il a découvert, cet homme assez étonnamment, en étudiant des faits assez mystérieux de cicatrisation d'enfants mordus par des serpents ou blessés dans les forêts amazoniennes. Et en fait, il a observé, cet homme, ces mères qui passent des heures en fait hein, à chanter sur les plaies de l'enfant. Et en fait, dans cette connaissance totalement irrationnelle des chants, elle se met en vibration, enfin en état de sympathie, et les plaies cicatrisent en quelques heures. Hein? D'ailleurs, on trouve ça aussi avec les aborigènes aussi, hein, qui recousent des fractures, enfin un truc incroyable. Nos protéines chantent aujourd'hui, et en fait, alors bien sûr, à des octaves extrêmement bas, mais ça a été isolé, ce qu'on appelle des protéodies. Donc aujourd'hui, les physiciens sont capables d'entendre que nos protéines chantent avec des séquences de notes ou des séquences musicales. D'ailleurs, ce qui va faire aussi que certains chants sacrés vont venir stimuler ou pas, au contraire d'autres vont déstructurer. Mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a réellement un chant qui nous habite. Il y a un son protéique qui nous habite. C'est montré maintenant. Un chant. Et à la mesure où on va se mettre à l'écoute de ce chant, c'est comme si on était en train d'entendre que finalement nous sommes créés, je pourrais dire, d'un point de vue de l'humanité en bonne santé, en laissant ce son ou ce chant émerger, on pourrait dire que naturellement ce son après la parole va arriver, hein, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Il y a vraiment après un nom qui va venir. On est vraiment créé, je dirais, pour célébrer le nom qui nous habite. Cette invocation du nom. Et là, on entre vraiment dans cette prière du monde animal. Le chant. Le chant de l'être. Donc, là, on entre vraiment dans la tradition. Donc là, j'ai volontairement repris un peu cette explication, cette approche très naturelle hein, au niveau de ces différents règnes. Mais c'est comme si finalement, dans notre tradition de prière, enracinement, orientation, on prend conscience de la respiration, eh bien on va être invité maintenant à laisser ce chant se dire. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gospodi pomeloi, Gospodi pomeloi, Gospodi pomeloi. Seigneur, prends pitié. Waouh. En français, d'un seul coup, on perd, en slavon aussi, en russe, en grec, et puis en français, Seigneur, prends pitié, bam, le truc qui plombe, vraiment, il n'y a plus aucune mélodie, je dirais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour certains d'entre nous, hein, la notion de l'invocation en français, avec Gospodi pomilou, puis Seigneur, prends pitié, on a l'impression d'un truc qui nous tombe dessus. Dans la configuration aussi hein, de ce que le mot prend pitié a pu. Mais là, on sent bien qu'il y a des langues qui aident pour ça, hein, ce chant intérieur. Hein, ce Maranatha, Maranatha, Rabuni Yeshua. Vous savez, c'est ces noms un peu qui font résonner. Hein, mais ça aide ça aussi, mine de rien. Hein, on sait bien dans ce chant, hein, cette force de l'invocation. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Bon, en tout cas, nous, ce qui nous reste aujourd'hui en français, c'est Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi et de nous, parfois pécheurs. Mais en même temps, voilà, avec toute la richesse de cette invocation, vous le savez, c'est qu'en tout cas, derrière tout cela, donc la transmission, vous le savez, et là, il faudrait revoir aussi tous les livres de Père Alphonse et Rachel, hein, qui ont laissé une transmission merveilleuse hein, sur la prière du cœur, prière de Jésus et d'autres aussi. Le Père Jean Séraphin et bien sûr d'autres. Hein. Mais vous le savez, dans cette invocation, eh bien, on va rejoindre à travers ce chant de ce magnifique rouge-gorge, finalement, l'invocation du beau nom de Jésus, de Yeshua. 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 Hein, en hébreu. C'est donc ce beau visage. Et finalement, ce qu'on est en train d'entendre, finalement, c'est que cette prière de Jésus ou à Jésus hein, est une prière qui est centrée autour du nom de Yeshua. Jésus, ce Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Finalement, derrière cette invocation du nom de Jésus, dans la tradition, vous le sentez, la grande question qui nous est posée à chacun d'entre nous, c'est la grande question qu'il a posée il y a 2000 ans, et pour vous, qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? C'est un grand mystère, ça. Vous savez que Yeshua, on va le décliner comme certains êtres humains dans l'histoire, hein, d'ailleurs un être humain qui ne va pas laisser beaucoup de traces hein, en lien avec, je dirais, les sources, je dirais, scripturaires ou de l'histoire, hein, avec Tacite ou Flavius Josèphe. Il y a très peu de choses sur Jésus hein, dans l'histoire hors évangile. Donc, qui est Jésus pour nous hein? Pour certains, c'est un enseigneur, un homme de sagesse, hein, un rabbi. Pour d'autres, un thaumaturge, un médecin des corps et des âmes, un maître de sagesse, un prophète. Mais rappelez-vous sa parole. Il y a ici plus qu'un prophète. Il y a ici plus que Salomon. Plus qu'un homme de sagesse, plus qu'un prophète. Il y a ici, diront certains, le Messie attendu. Et l'évangile de Jean ira même jusqu'à dire, c'est le visage même du Logos, de l'incréé divin, le Fils de Dieu, incréé, qui se montre à être vu. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment on en est conscience? Est-ce qu'on en est conscient de cela? Ce mystère de Jésus-Christ, qui est-il ce mystère? Et pour des chrétiens aujourd'hui, c'est un super-homme, comme d'autres, mais c'est pas Dieu. Enfin, en tout cas, ça achoppe. C'est ça le grand mystère. C'est et Dieu et l'homme. C'est difficile, hein, toute la force du dogme, là, Marc, puisqu'il est là, j'avais vraiment proposé une très belle expérience autour de cette approche théologique de la Sainte Trinité. Il explique tout ça. Enfin, cette approche du dogme, cette approche de vrai Dieu, vrai homme, qui est très très bien construit. Et je trouve que là, on est vraiment au cœur d'un mystère qui fait qu'on ne sait pas encore vraiment ce qu'est le Christ. Parce que je crois qu'on est beaucoup en train de séparer. Et Dieu, c'est ou Dieu ou l'homme. C'est difficile hein, de vivre et Dieu et l'homme. Hein, donc, bref, c'est un chemin. En tout cas, ce nom, Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, on le fait venir, on le nomme, et on devient ce que l'on nomme. On devient qui on nomme. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Rabouni Yeshua. Donc certains diront sur l'inspiration, hein, comme si en même temps qu'on reçoit le souffle, « Oh, Seigneur Jésus-Christ !» Fils de Dieu, hein, ce sauveur, ce rédempteur qui vient me rejoindre, et en même temps, dans l'expiration, matricie-moi, prends pitié, au secours. J'offre ma misère, j'offre cette matière humanité inaccomplie, inachevée, pour que, à l'inspiration suivante, il soit fécondé par la présence. Hein. Donc, certains vont vraiment articuler l'invocation du nom hein, sur prends pitié, au secours, au secours. Et pécheur, pécheur, qui n'est pas ce mot tellement difficile, douloureux, empoussiéré pour beaucoup, certains d'entre nous, c'est la reconnaissance de l'erreur de visée. Hein, et vous rappelez qu'en grec, eleison, eleion, c'est donne-moi ton huile, lubrifie-moi, c'est-à-dire donne-moi ton souffle, donne-moi ton huile sainte, hein, cette huile qui vient guérir mes plaies, qui vient guérir, hein, comme le bon samaritain, hein, qui vient guérir cette humanité laissée sur le côté, donne-moi ton huile. Et avec l'approche hébraïque, on entre vraiment dans cette dimension utérine qu'on rappelait tout à l'heure. Enfante-moi, matricie-moi à une vie nouvelle. Voilà, notre prière c'est ça, c'est Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de nous, de moi ou de nous, là où nous ratons la cible, dans l'ignorance, dans l'inconscience. Enfante-nous à une vie nouvelle, à une lumière nouvelle, à une santé nouvelle. Là où on ne sait plus, on ne peut plus. C'est une très grande, en vérité, c'est une très grande expression qui porte tout le mystère de l'Évangile, hein, cette invocation donc, dans la prière. Donc là, on entre plus dans une forme de méthode, hein, je vous l'avais dit. Et puis après, incarnation, orientation, respiration, invocation, et on arrive à un aspect très important pour nous aussi dans la tradition de l'efficacité, c'est le lien au cœur. C'est comme si tout notre chemin, le sens du chemin, c'est qu'il va prendre un centre. Et ce centre, c'est le cœur. Ce cœur à la fois, c'est le cœur organe, donc vraiment notre attention ici, mais en même temps, le cœur, c'est une fonction. C'est une fonction, mes amis, le cœur. Quand est-ce qu'on sait qu'on est dans le cœur? On peut faire une expérience, on est face à un arbre, ou avec une pierre, ou avec un animal. Essayons de rencontrer l'arbre avec la tête, la dimension intellectuelle. Vous allez voir que ce sont les facultés qui vont être mises en branle avec une dimension analytique, de classification, de couleurs, etc. Bref, on classifie, on conceptualise, mais il n'y a pas de présence. C'est un objet extérieur, analytique. Rencontrons l'arbre avec le hara. C'est le lien avec l'énergie, hein, la rencontre avec la vitalité, la puissance. On est dans le monde des énergies, dans le monde du hara, dans le monde de la vie, de la vitalité. Rencontrons l'arbre avec le cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui est là. Le cœur nous fait entrer dans le monde des présences. Descendre de la tête dans son cœur, c'est quitter le monde des concepts et descendre dans un monde de présence. Seigneur, toi, toi et moi, nous, toi. C'est vraiment, il y a une relation, il y a un tutoiement de présence qui se fait au niveau du cœur. Donc c'est pas uniquement que le cœur organe, je dirais, c'est une fonction cordiale qui permet d'entrer en relation avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Il y a une relation qui est là, dans le cœur. Une relation qu'on va invoquer, qu'on va supplier, qu'on va remercier, qu'on va... Donc vraiment, entrer en lien avec le cœur, c'est vraiment entrer en lien avec le centre de notre âme, lieu de la sainte rencontre avec son Seigneur. Lieu émotionnel, lieu sentimental, c'est sûr. Mais les Russes, hein, comme Saint Théophane le Reclus, Brian Chaninov, toute la grande tradition hésychaste russe, va beaucoup insister sur la chaleur du cœur, cette ouverture au niveau du cœur. Hein, aie un cœur, et tu seras sauvé. Retrouve ton cœur. Retrouve ce lien avec cette conscience du cœur. Hein, qu'on entre, que la nature n'est pas une chose, que le corps de l'autre, c'est pas une chose, que mon propre corps, c'est pas une chose, que Dieu, c'est pas une chose. C'est un monde de présence. C'est un monde habité d'une présence. Et dans l'ouverture du cœur, finalement, on va entrer dans la prière, dans cette ouverture, hein, et je finirai là à travers, donc voilà, en plus, c'est étonnant, hein, c'est une image d'une, dans le cosmos, d'une nébuleuse. Je ne sais pas quel nom. Vous avez eu un peu ce cœur, c'est incroyable. Hein, enfin, un peu déchiré. Hein, non, mais là, c'est vrai qu'il ne voit pas très bien. Là, mais c'est vraiment un cœur, c'est vraiment une nébuleuse enfin, dans l'univers qui a été pris au télescope et qui montre vraiment une zone voilà, cordiale, cardiaque, je dirais. Hein, ce cœur, voilà, ce cœur du Seigneur, ce cœur de la croix, ce cœur de la création, ce cœur. Et celui qui va vraiment incarner tout cela. Qui va donc nous faire entrer dans l'exercice de la filiation. Je crois que celui qui a incarné le plus cela, vous le savez, Saint François. Avec ce cœur ouvert, qui faisait que dans son grand cantique, c'est un modèle de ce cœur ouvert, où il part à la fois de la prééminence de « Loué sois-tu, mon doux Seigneur » dans cette tradition apophatique, innommable, incompréhensible, nul ne peut te bénir, hein, tellement tu es incompréhensible, et en même temps, tu te donnes à être vu à travers toutes tes créations. Et du coup, toutes tes créations sont filles et fils. En tout cas, dans cette ouverture du cœur, toute la création, tous les règnes, faut que je m'arrête, je crois, tous les règnes sont vus dans ce regard filial, fraternel. Et c'est le sens de l'ouverture du cœur hein, qui nous conduira donc dans ce langage frère soleil, sœur lune, donc cette fraternité où François ne se considère pas supérieur, il se considère comme voilà comme le frère et comme le frère de toutes ces réalités relatives qui sont à leur manière réceptacles de la présence. Et c'est ce que vit aussi le pèlerin russe hein, dans ce langage de la création. Qui, vous le savez, va de plus en plus va conduire après au sommet, à la transfiguration. L'ouverture à cette lumière incréée qui habite toute chose. Et là, on arrive à ce qu'on appelle la déification. Voilà, qui est vraiment, encore une fois, des images très, très très figuratives qui peuvent ne pas parler à certains, parce que de toute façon, c'est tellement au-delà de tout cela. Mais tout notre chemin de prière participe à ces différentes étapes au service donc, d'une tradition, hein, et donc à travers le rappel, en prenant soin du corps, de la matière, orienter, respirer, invoquer, hein, dans cette descente dans le cœur. Et donc, pour résumer, vous le savez, donc, c'est cette posture, donc voilà, ça c'est un petit peu la fin des diapositives, et bien sûr, voilà, j'aime bien terminer comme ça par cette posture de la Vierge Marie. Voilà, mes amis, il est 17h15, je vous propose que nous puissions voilà, mettre un petit peu de, voilà, de suspension là, à notre parole. On pourrait bien sûr développer beaucoup de choses, mais peut-être avoir un temps un peu plus interactif pendant 20-25 minutes, et puis jusqu'à 6h moins le quart, moins 10, et puis on ira vers les vêpres pour ceux qui le veulent.
On a déjà fait la méditation, vous aviez annoncé.
Alors, non, elle n'est pas prévue là, mais c'est vrai que du coup, on peut la faire. Enfin, ça me paraissait normal. Moi, je pense qu'on peut faire un petit temps de questions, si vous le voulez bien, et qu'on finisse par un temps de méditation, parce que ça me paraît cohérent là, avec ce qu'on a partagé. Elle n'était pas prévue en fait, hein, la méditation, dans l'organigramme, dans l'organisation, mais je pense que tout à l'heure, je me suis trompé en fait là, en essayant de. Mais moi, je crois que là, il est 20, moi, je pense qu'on se donne jusqu'à 6h moins 20. En question, j'ai des questions, et puis après on finit par ce temps de silence, un temps de méditation, un temps de louange, voilà, et puis pour vraiment remettre, voilà, donc rappeler un petit peu tout le chemin qu'on voulait proposer aujourd'hui, enfin dans ces quelques partages. Voilà, frères et sœurs, hein, donc il y a peut-être forcément des questions, des choses qui ont été survolées. Alors, bibliographiquement, je ne sais pas si ça existe en français, ça, mais. En bibliographie et tout un ensemble d'ouvrages aujourd'hui. Voilà, donc, en tout cas, déjà par rapport à nous, au niveau de l'Église orthodoxe des Gaules, en tout cas, vraiment le lien du père Alphonse et Rachel. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une mine dans ce livre, moi qui m'a beaucoup inspiré il y a 20 ans quand j'ai rencontré la Paix du Cœur. Hein. Prière de Jésus, prière du cœur, hein. Père Alphonse et Rachel Goetmann. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une. Pour ceux qui veulent approfondir hein, ces pratiques. Ces pratiques, Père Alphonse et Rachel Goetmann, je ne sais jamais, c'est G-E-T-2-T, non ? G-O-E-2-T-M-A-2-L, non ? Comme ça ? 2-L, hein ? D'accord. Alphonse et Rachel Goetmann, prière de Jésus, prière du cœur, aux éditions du CERF, je crois, ou Albin Michel, je crois. Hein ? Tout à fait, oui. Merci, Roselyne. Matiouchka, bien sûr, qui est là présente avec nous. Alphonse et Rachel. Voilà, ça, c'est vraiment les grandes références hein, de nos pères et mères pour nous, hein, dans la tradition occidentale, qui a beaucoup, beaucoup fécondé cette pratique. Père Alphonse et Rachel Goetmann, donc, prière du cœur, prière de Jésus, prière du cœur. Ou prière du cœur, prière de Jésus. Il y a aussi, je crois, le livre aussi du père Jean-Séraphin, Jean-Yves Leloup. Donc là, dans notre église aussi. Voilà, hein, écrit sur les échasmes, une tradition contemplative oubliée. Donc là, c'est Albin Michel. Donc là, vous retrouverez certains aspects qu'on a partagés aussi. Voilà, moi, j'aime bien aussi faire référence souvent à toute la grande tradition échaste russe, à mon avis, plus parlante pour moi que la grecque aujourd'hui. L'art de la prière aussi. Hein, Igoumène Chariton, hein, spiritualité orientale. Donc avec beaucoup de paroles de Théophane le Reclus, voilà, donc l'art de la prière. Donc là, on va vraiment retrouver dans cette dimension-là plutôt la pratique de la prière hein, que j'ai abordée dans la troisième partie. Avec les deux autres livres, là, on va beaucoup aborder justement la dimension théologique, inscription évangélique, etc. Voilà, donc là, c'est vraiment des ouvrages très complets. Un petit livre aussi très, très, très récent que j'ai beaucoup aimé, qui est très simple, qui est d'un frère catholique romain, je crois, qui est Carme Deschaussée, qui a écrit « Prière de Jésus » et qui, alors je connais son nom maintenant, aux éditions du CERF, qui est un petit livre, mais qui est très précieux, très, très rassemblé. Voilà, donc en France, en tout cas, en langue francophone, il y a vraiment tout un ensemble d'ouvrages. Le lieu du cœur aussi, hein, Elisabeth Bercier-Gel, et toute la preuve de Callisto Soer, hein, donc qui a été un père spirituel aussi pour certains, en tout cas de Père Alphonse et Rachel à un moment donné. Donc Callisto Soer, hein, qui a écrit aussi beaucoup des choses au cercle du cœur. Oui, tout ce qui vit est saint aussi, hein, c'est tout ce qui vit est saint, et donc tout ce qui vit est saint. Hein, donc voilà, donc là on est vraiment dans des logiques à la fois d'enracinement théologique et de pratique. Hein, de pratique.
Deux autres petits livres pour quelques forces.
Alors, Epelrarus, bien sûr, excusez-moi, bien sûr. Bien sûr. Récit du pèlerin russe, bien sûr. Là qui est vraiment, je crois, une mine tellement innocente, tellement belle, tellement jeune, juvénile, mais dans le bon sens du terme, hein, donc tellement et de ces pèlerins en même temps qui étaient retravaillés par ces grands starets. Bon, puis toute la philokalie, maintenant actuellement, il y a toutes les grandes traditions de tous les pères du désert, hein, donc en différents modèles, soit carrément des petits modèles, soit carrément en deux volumes, de toute la philokalie, hein, de la prière du cœur avec Jean Grouillard aussi, hein, Jean Grouillard qui a... Donc il y a tout un ensemble de livres actuellement qui vraiment vont beaucoup approfondir ce qu'on n'a fait que survoler pendant ces quelques temps.
Ils ont réédité aussi le livre de la vie de Saint-Séraphine de Saroche, qui est aussi très beau.
Complètement. Complètement. Saint-Siloane, enfin c'est grand, c'est grand.
Cette personne dit, la première chose qu'elle dit en rencontrant les gens, c'est « Ma joie, Christ a ressuscité. »
Absolument.
Si ça, c'est pas dit, elle a dit,
je sais pas. C'est clair. C'est clair. Et vous sentez tout notre chemin, finalement, c'est ce chemin de désencombrement, où finalement, moi s'efface, moi tellement crispé, tellement, moi s'efface pour qu'au cœur de moi, il est plus grand que moi. Moi qui, il faut que moi je décroisse, hein, pour que toi, Seigneur, tu grandisses. Et comment tout notre chemin est un chemin de dépossession, de désagrippement, de désincarcération de l'histoire simplement égotique, hein, ce point de vue uniquement égocentré qu'on a tellement fort, et comment à un moment donné c'est voilà, c'est plus moi le centre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que Dieu existe, c'est que Dieu soit, c'est que Dieu vienne me visiter et que c'est lui le centre, hein. Alors il vient après m'habiter, il vient se signifier à travers la forme unique et particulière qui est la mienne, donc qui est importante, bien sûr, parce que cette manière unique et particulière de signifier au monde. Mais il y a vraiment voilà, ce centre de gravité déplacé. Toujours, encore une fois, on le rappelle, la grande question, c'est pas qui es-tu, c'est où es-tu. C'est la place. Où sommes-nous en nous-mêmes, dans nos relations? Est-ce que c'est toujours moi? Moi, moi, ou toi, 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 le centre de gravité qui est déplacé. C'est plus moi, c'est toi. Alors, je le dis comme ça, toi, en vérité, c'est toi en moi, toi plus grand que moi. Enfin, forcément, c'est un peu piégé, je dis, là, c'est pas... mais c'est intérieur. C'est... Donc, c'est vraiment, voilà, c'est toute cette invitation, et là, voilà, ça circule après, c'est tout le. Jour après jour, hein, voilà, maintenant, il n'y a qu'à. Yaka, yaka.
La tradition de la première communauté, vous avez déjà entendu ?
Alors, il y a des livres, alors justement, dans Le lieu du cœur d'Elisabeth Bercier-Gel, elle reprend un petit peu ces différents courants, première communauté chrétienne. Il y a un beau livre de Louis Bouillet sur, le premier, sur les christianismes de l'origine, qui est remarquable. Hein, ça date un petit peu déjà. Louis Bouillet. Bouillet qui est un... et qui vraiment nous parle beaucoup de tous ces grands climats de ces premières communautés chrétiennes. Il y a aussi un livre intéressant aussi de... comment il s'appelle un russe... Le Père Schmemann, sur l'orthodoxie, le livre de l'histoire d'orthodoxie, qui est aussi assez parlant. Il y a un chapitre très intéressant sur les premières communautés chrétiennes. Le Père Schmemann. Schmemann, alors là c'est pareil de nouveau, pouf. Schmemann, donc avec un M, Schmemann, donc l'orthodoxie. Là on est vraiment dans ce climat judéo-chrétien, hein, qui était de l'église primitive, hein, de cette articulation entre le judaïsme et le christianisme, très intéressant. Et on voit qu'il y a très peu de rupture, hein, au départ. C'est... Donc judaïsme et christianisme, c'est les premières communautés chrétiennes, on est vraiment à l'origine. Enfin, tu as peut-être d'autres.
Il y a Irénée Maroux et Daniel Hou,
ouais.
Pour l'histoire de l'Église, le premier volume. Le
premier volume aussi. Hein.
Ça explique très très bien.
Irénée Maroux, hein, c'est ça, oui. Irénée Maroux.
Et Jean Daniel Hou.
Pardon ?
Et Jean Daniel Hou,
qui ont écrit ça. Et Jean Daniel Hou, hein, qui sont vraiment des théologiens et au niveau de l'histoire de l'Église au général, hein, Daniel Hou, Jean Daniel Hou. Donc là, les références, là, le texte, hein, c'est la, l'histoire de l'Église, hein, je crois. Hein, de l'Église.
Vous avez fait un arbre généalogique pour la transmission. Et vous avez nommé les femmes du temps de Jésus. Mais dans votre arbre généalogique, à part Marie l'Égyptienne, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein.
Elles sont peu connues, tu as raison, Roselyne. Alors, on pourrait les refinifier, tu as raison, bon, là, je ne pourrais plus trop les refaire, il y avait un problème de place aussi. Mais c'est vrai qu'on pourrait les. Toutes les grandes traditions, des femmes, des démoniales, enfin, ou des femmes simplement qu'on retrouve. Et c'est sûr, non, mais ça, je suis d'accord, hein, il faudrait qu'on les replace.
Et alors, dans la première dia, il y a la croix avec les flèches et le chemin. Peut-être vous l'avez expliqué, mais je n'ai pas compris pourquoi le bas de la croix est ouvert. Et le haut.
Non, oh ben,
non pas le haut.
Où ça? Ah bon, il est ouvert?
La première dia.
Aïe, aïe, aïe. Mon ordinateur, il ne répond plus l'ordinateur. Là, il ne répond plus. Il fait... Oh là là, ça se complique très fort. Il y a chaud, je crois. Ce qui se passe, là, mais je vais un petit peu. Le... Bon, en fait, non, à mon avis, c'est pas. Non, la croix, il me semble que c'était. Enfin, tu veux dire quoi, Rosine, c'était des. C'était un 8, oui. ce qui était fermé.
En bas, il était ouvert.
Ah bon?
Mais en haut aussi, sur les côtés aussi. Il était ouvert sur les quatre côtés.
Alors, ce diaporama, peut-être que certains le souhaitent aussi, enfin. Hein, donc.
C'est par là.
Si vous, voilà, après, je ne sais pas si c'est un support qui peut être intéressant en plus, mais pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de souci, hein, on pourra le. Moi, je pourrais vous l'envoyer, vous le transférer, c'est pas des informations qui sont à garder pour soi, donc je vous les passe, et puis après, vous les transmettez, hein, vous les.
Et alors, j'avais une dernière question. Séraphin de Sarov. Moi, je croyais que Sarov, c'était un lieu-dit.
Oui.
Et vous avez parlé de Sarov, une origine hébraïque.
Alors, le mot séraphin.
Séraphin.
Excuse-moi.
Il y a de Sarov. Non. Sarov, c'est une ville russe, Sarov. Hein. C'est une ville, c'est une province, hein, tu le sais. Mais c'est le mot séraphin, pardon. Parce que je suis allé un petit peu vite. Le mot séraphin, en hébreu, Sarov. Donc, Saraf, hein, Saraf, c'est Sar avec la lettre Fé en hébreu. Hein. Saraf en hébreu, on va le retrouver dans le texte de l'Exode. Vous savez que lorsque Moïse, à un moment donné, montre les serpents, les brûlants en fait. Hein, Saraf, hein, les séraphins, les séraphimes, c'est vraiment littéralement en hébreu les brûlants.
Je traduirais plutôt ça par les incandescents.
Les incendiaires aussi, hein, on dit. Ouais.
Ceux qui portent le
Saint Denis l'Aréopagite, effectivement, décrit comme incendiaire, incandescent, incendiaire. Le mot brûlant aussi est trouvé. Et je crois que le mot incendiaire est utilisé en grec par le Saint Denis l'Aréopagite. Oh, désolé, mon ordinateur, là, Ah non, ça y est, ça va. Attendez. Voilà. Je contrôle cette croix qui était. Alors ça, vraiment. Oui, c'est ce que je fais, oui. Non, en fait, c'est pas qu'elle est ouverte, en fait. Tu veux dire la croix, là? C'est qu'en fait, c'est parce qu'elle est traversée par le... En fait, non, hein, elle est complète, la croix. Mais c'est parce qu'en fait, elle est traversée par le... Par la croix. Le bois de la croix. Qui traverse. Oui. Je vous écoute. Hein.
J'aurais bien voulu vous remercier infiniment parce que j'ai une réponse à une question que je me pose depuis des dizaines d'années.
Ouh là là, alors.
Parce que j'avais dit, prier, c'est demander. Et moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi demander? Puisque Dieu sait ce que je demande.
Ouais, ouais.
Et en fait, j'ai vraiment compris que c'était s'ouvrir à la relation,
ouais.
Une humilité.
établir un contact. Vraiment, je vous remercie parce que, franchement, je demande très peu de choses puisque je me dis, ben, il sait ce dont j'ai besoin.
Oui. Et voilà, le fait de demander, c'est pas tellement pour Dieu, il fait de toute façon, il fait tout. Mais chez nous, la poussée de demande nous met dans quelque chose qui est différent. Expérimentons-le. Et encore une fois, ça peut être une demande sans parole, sans mots. Mais il y a une ouverture, il y a une porte qui est là, qui s'ouvre. Vraiment, je joue. Oui, c'est ce que vont dire certains, effectivement, dans la notion du son. Je suis d'accord, Hein. Certains diront qu'effectivement, au commencement était un son. Hein, donc, ça va être la grande tradition de l'Inde, nous parle beaucoup de ce om. Dans les mantras, hein, cette grande om qui fait résonner le om. Mais c'est vrai que dans la. Alors, ça ne dispense pas quand même de la richesse, hein, de cette invocation. Et franchement, moi, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de bonheur et beaucoup de, je trouve, de joie, et avec des choses qui peuvent s'ouvrir aussi en étant basiquement en français avec cette option. Voilà. Mais c'est vrai que je crois que. Alors, je crois pas particulièrement dans la forme orale, parce que c'est vrai que. Il faut savoir, ça, on ne l'a pas forcément développé, mais que avant d'entrer vraiment dans la pratique plus intérieure, hein, où les mots vont se dire en esprit, il y a quand même, et il en parle très bien, la Ligumen Chariton, des étapes dans la prière, et en particulier ne pas trop édulcorer l'invocation orale, hein, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup à Maldon, par exemple, hein, dans la transmission avec le père Sophronie. Il y a vraiment l'oralité, donc vraiment, on dit tout haut, hein, Seigneur, donc, have mercy on me, ou Rabboni Yeshua. Et là, effectivement, bon, voilà, je crois que c'était expérimenté. Je pense qu'il faut expérimenter. Je crois qu'il n'y a aucune méthode. Alors, en hébreu, exactement, je ne sais pas exactement les mots. En tout cas, je sais que, nous, une invocation qu'on dit beaucoup là-bas dans l'église, en fait, c'est l'invocation de Marie-Madeleine le matin de Pâques, Rabboni Yeshua. Rabboni, maître aimé, Yeshua. Rabboni, Yeshua. Non, en tout cas, en sachant bien, mes amis aussi, que l'invocation va être là. Je crois que les pères souvent disent qu'il ne faut pas trop changer d'invocation comme si c'était un arbre qu'on déracinait trop souvent. Mais après, l'invocation, elle peut aussi varier en fonction des climats liturgiques, en fonction de nos climats aussi par rapport à des épreuves traversées. Elle peut en tout cas se nuancer. Et puis, vous savez qu'à un moment donné, les mots vont être là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les mots se dissolvent dans la présence qui est là. Et là, à un moment donné, il n'y a plus de mots. Il y a une contemplation qui est là. Donc, c'est un peu. Moi, les mots, souvent, c'est posé comme. J'aimais beaucoup les Shadocks. J'ai toujours aimé les Shadocks. Les Shadocks, ils pompaient. Il n'y avait rien qui venait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une fois qu'ils pompent, l'eau vient. Et à un moment donné, c'est plus la peine de parler, d'invoquer, puisque la présence est là. Hein, donc, l'invocation, elle peut être quelque chose d'un peu. Pour. Bon, c'est un peu. Pardonne-moi, Seigneur, c'est un peu limite quand même, comme comparaison avec Shadok, quand même. Je peux mieux faire, c'est clair. Mais je dirais que, bon, c'est parfois des images un peu triviales qui viennent à l'esprit. Mais il y a un lieu, je crois, où à un moment donné. En fait, c'est la notion de chauffer le cœur. Chauffer. Seigneur, Jésus-Christ. Il y a vraiment un lieu où. Voilà, et puis, encore une fois, comme on le disait, nous, si on ne reste que de la dimension. Alors, on construit incarnation, orientation, respiration, donc invocation, on se met en posture. Vous savez, certains vont avoir l'image d'un bateau. On construit la coque, c'est une autre image. La coque du bateau, incarnation. Le mât, orientation. Les voiles, content. Respiration. Le petit drapeau qu'il y a au-dessus, comment ça s'appelle le pavillon. ICXC, hein, Jésus-Christ. Donc, on bat le pavillon Jésus-Christ, donc on invoque Jésus-Christ. Après, au milieu du bateau, le cœur, la centrale un petit peu qui dirige. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas de vent. C'est-à-dire, on a construit le bateau, mais je ne sais pas ce qui fait avancer le bateau. Donc, par contre, si le vent arrive et qu'il n'y a pas les voiles qui sont levées, il ne va pas tourner. Donc, vous sentez à quel point nous, on construit, c'est notre effort, notre. Voilà, on se met en posture, on est attentif, on a une pleine conscience à la posture de se mettre en capacité. Mais après, c'est le vent, l'Esprit Saint, qui va nous porter, qui va nous faire avancer, qui va nous faire entrer dans des espaces, en le laissant respirer en nous, il va mettre en mouvement notre barque, notre bateau d'humanité. Donc c'est vraiment une alliance, hein, cette synergie divino-humaine, voilà, qui fait que, voilà, bon, donc si on en reste qu'aux pratiques extrêmement humaines ou telles qu'on les a décrites, ça reste pauvre, enfin, ça reste. Il y a la grâce de l'esprit qui est là, hein, qui va nous porter, nous soulever et faire que vraiment, voilà, on va être vraiment dans quelque chose, d'une expérience d'union, de rencontre. Et parfois c'est pas là, quoi. Et parfois la prière, bon, on passe beaucoup de temps, en même temps ça dure, c'est long, on est pensé, enfin, on commence à prier, on se retrouve en train de faire les courses à Carrefour, enfin, de prévoir le prochain dîner, on est complètement à fond, quoi. Reviens à ton cœur, c'est pas grave, on est là toujours, c'est pas grave. Paf, on repart, on est avec les enfants, enfin oui, mais on passe son temps à ça, et au bout d'une demi-heure, allez, on a été opératif, peut-être une minute quoi, ou 30 secondes, on a vraiment prié. Mais c'est pas grave, c'est peut-être à ce moment-là que ça a été le plus efficace en fait, parce qu'on a ramené sans arrêt, on a ramené. Donc on ne peut pas juger notre prière, je sais pas comment dire, hein, là quand on dit, oh aujourd'hui j'ai bien prié, je suis assez, en vérité, ça peut nourrir l'ego par contre, ça c'est sûr, enfin, on n'en sait rien si on est bien prié ou pas. Oui, on peut être plus ou moins bien, ou plus ou moins. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sort pas bien qu'on n'est pas forcément mal prié. Vous comprenez, c'est tellement un regard un peu narcissique, enfin, je dirais, sur soi en train de se contempler. Oh, je suis bien là. Et parfois, c'est nos pratiques peuvent quand même nourrir ça. Il faut qu'on fasse gaffe à ça. Une espèce de côté un peu d'ego spirituel, où on se regarde en train de méditer ou de prier.
Mais comme tu le disais, ce qui est important, c'est de donner son temps. D'être là.
Voilà, d'être là. La fidélité. C'est ça qu'on peut donner. C'est le temps, enfin, vous voyez, c'est le temps qu'on va passer avec cette rose, hein, qui va rendre la rose importante. Et même si on n'est pas vraiment brillant, on a l'impression de ne pas forcément très bien prier, il y a cette fidélité qui est là. Et ça, je crois que c'est important.
Voilà. Le temps est précisément très important. Parce qu'il a été donné une méthode concrètement entrée dans la prière éducative. Il y a une méthode en 7 points
bien sûr.
Qui est parfaite. Mais il y a un point, je crois que c'est le 7e, qui est très difficile. C'est chasser les pensées qui vous viennent. Et bien là, j'ai un truc que je n'ai pas inventé, mais j'ai eu le bonheur de connaître un bonhomme qui s'appelait Marcel Lego, et qui, quand il demandait comment il fallait faire, il disait, mais écoutez, installez-vous convenablement. Ne vous mettez pas à genoux si vous avez mal au genou, ça ne va pas marcher. Mettez-vous le plus à l'aise possible. Et puis, attendez. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte, il va vous arriver à stabiliser. Alors lui, il disait, ne les chassez pas.
Non, c'est ça.
Elles vont venir. Alors attendez. Et c'est là qu'il faut du temps. Et vous attendez, et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus d'idées. Et vous allez vous dire,
qu'est-ce qui est puni, hein?
Mais qu'est-ce que je fous ici? Et alors il disait, avec un peu de bourre, surtout à ce moment-là, ne partez pas, hein, c'est à ce moment-là tout commence.
Exactement.
Donc il faut du temps, voilà, et je crois que j'ai un petit cliqué sur le 7e point, chasser, quand tu commences
non, mais,
à chasser les pensées.
Tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, hein, tout à l'heure, je suis d'actu. En fait, ça, c'est le pèlerin russe, hein, qui le signifie, mais c'est vrai que l'expérience montre que plus on va vouloir chasser, et plus souvent ça revient, comme tu dis très justement, Guy. Hein. Donc je pense qu'après il y a des stratégies au niveau du mode de pensée, mais je pense que c'est vrai que c'est le temps, et régulièrement, donc concrètement, d'ouvrir un espace dans notre maison, qui est un lieu de rendez-vous. Hein. Le père Alphonse en parlait très bien avec Rachel dans son livre, hein, ce lieu d'icône, ce lieu du rendez-vous de l'amour avec son Seigneur. Et vraiment d'avoir un moment qui est un lieu, donc organiser un lieu dans notre maison et puis du temps dans notre journée, hein, donc certains diront deux fois, pas moins de 20 minutes, matin et soir, hein, si on peut plus bien sûr, en sachant que la prière est tout le temps dans la grâce de Dieu présente, mais au moins d'avoir deux moments où on arrête de faire, hein, pour entendre que bien c'est le droit à la contemplation, donc voilà, matin et soir c'est déjà pour commencer, enfin voilà, comme exercice très concret.
Je crois qu'il faut prendre une certaine habitude.
Tout à fait.
Il faut se réserver, si possible, à peu près la même période.
Tout à fait.
Dans la journée.
Dans la même pièce, dans cette habitude. Bien sûr, bien sûr.
Ça aide beaucoup.
Ah, mais complètement.
Au début, c'est un peu
inconfortable.
et puis ça devient un besoin.
Mais exactement.
Et si on ne le fait pas, il y a un manque.
Exactement, Guy.
Et ça, je crois que c'est important.
Et progressivement, voilà, maintenant on rentre dans du très pratique et très concret, il y a vraiment des lieux vraiment particuliers qu'on se donne. Et tu as raison, Guy, à un moment donné, ça imprègne notre vie et on ne peut plus s'en placer, quoi. On sent que là, vraiment, si on ne le vit pas, on ne nourrit pas un lieu de nous-mêmes. Ça, même si c'est un peu fastidieux au départ, il y a vraiment un exercice très concret hein, que chacun là, on a pu expérimenter.
Si tu veux bien, parce que je vais ramener des choses réglementaires.
C'est concret, il est moins le cas.
On ne devient pas sain à la force du poignet, mais bon, il faut quand même y faire un petit aspect pratique.
On garde.
Je vais demander, si tu veux bien, à Amy, qui passe peut-être un petit mot de conclusion.
Et puis on finit par un petit temps de silence. Ton silence, et après, chacun après rejoint le lieu des êtres.
Voilà, et tu peux bénir après la méditation.
Oui, si tu veux, d'accord.
Voilà, un grand merci en tout cas à Frère Évêque Martin
d'avoir
pris du temps
pour
nous
grâce.
Sustenter. merci aussi au Frère Mal de Vendemont, au Frère Renaud, au prieur, mais au Frère Mal de nous avoir accueillis dans ce lieu qui est à l'écart de la fumée. Merci à la paroisse d'avoir été partie prenante et présente. Merci à vous. Si vous voulez, vous pouvez laisser votre adresse pour ceux de la paroisse de Lillois, on se connaît, donc ceux qui peuvent faire la paroisse de Lillois, vous pouvez laisser votre adresse sur une feuille là, adresse mail, et puis on peut encore se communiquer, des échanges, des idées, des informations.
Et puis le diaporama aussi,
si vous voulez.
Ou éventuellement, vous contacter par mail sur le site des clients. Maintenant, l'adresse mail d'Émile et la mienne sont prises dessus. Donc, si vous avez besoin d'un quelque renseignement, ben, nous, on peut bien évidemment relayer, soit vers la paroisse, soit vers différents sites qui peuvent permettre la progression.
Et vous ne pourriez pas.
Et ceux qui ont éventuellement le désir de pouvoir faire quelque chose en province de Lille, laisser un mot, une autre semaine ou quoi. Et voilà, on laisse les choses se mûrir lentement.
Vous ne pourriez pas dire ce qui est envisagé déjà concrètement, peut-être maintenant.
Concrètement, ici, l'idée, c'est que, ici, au niveau de la région liégeoise, c'est de pouvoir, non pas à terme, parce que c'est pas à terme, c'est un début, essayer de créer un petit embryon, une petite cellule de vie communautaire, de vie de prière. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre, dans quelle mesure ça peut se faire, mais qu'on puisse se retrouver un petit noyau pour justement prier ensemble, régulièrement, parce que tu l'as dit justement, il y a besoin de cette régularité, pour trouver justement cet enracinement, mais c'est vraiment un temps de prière que l'on veut ouvert dans un esprit spirituel, mais aussi ouvert à chacun et à chacune, parce que chacun, même si on se veut dans un rite orthodoxe et orthodoxe occidental, il faut vraiment se dire qu'on est accueil pour tout le monde et que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'à mon avis, le ciment va prendre. Mais maintenant, c'est encore une fois quelque chose à mûrir. Et c'est chacun, selon son cœur, selon ce qu'il sent, selon ce qu'il est. Et petit à petit, on va avancer. Voilà un peu l'idée. Je sais résumer ça.
Vous avez mon adresse mail. Vous pouvez laisser votre adresse mail ou votre adresse sur un mot. Je n'ai pas l'adresse mail de tout le monde. Donc, voilà. Et alors, on vous communiquera les. Je voulais juste ajouter aussi quelque chose qui m'a touché, mais que je savais intellectuellement qui m'a touché dans le cœur, c'est toute cette filiation spirituelle à travers le Proche-Orient, à travers la Syrie, la Palestine, l'Égypte, Gaza, dont on parle beaucoup aujourd'hui,
qui
nous relie à tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à force d'un rendez-vous. Voilà, ça m'a touché aussi.
Tout a commencé là, effectivement.
Pensons à nos frères de l'Église syrienne.
Absolument. Qui ne sait rien à gagner ses frères et sœurs.
Voilà.
Merci Stéphane. Voilà, un petit moment pour respecter aussi le timing, un petit moment, quelques minutes, mais voilà. une grande densité, quelques instants pour se remercier. Peut-être qu'on pourra proposer un petit chant à la fin d'action de grâce au Seigneur, de pouvoir simplement être là quelques instants, justement en lien avec nos frères et sœurs chrétiens de l'église syriaque, et tous ceux et celles aussi qui sont là avec nous. Je pense au Père Jean-Thierry, je pense à tous ces êtres qui ont tellement été là au cœur de cette église de la création et de la dynamisation de ces frères et sœurs qui sont dans la communion des saints aujourd'hui, communion par leurs prières qui nous accompagnent, qu'ils puissent vraiment nous accompagner, nous inspirer en lien avec cette grande tradition, pour que nous puissions répondre de la manière la plus ajustée possible au grand mouvement de contraction, d'accouchement collectif du monde entier, de l'humanité entière, du cosmos aujourd'hui. Ce sont des temps particuliers, et que tous ensemble, chacun dans nos lieux de vie, portés par la prière et le rappel, cette œuvre de mémoire de la tradition, constituée tous ensemble dans nos pratiques respectives, un corps, l'âme priante de l'Église, une, la densifier humblement et discrètement. Chacun de nos engagements, retrouver jour après jour ce sens de notre assise, la prière du monde minéral, notre orientation vers la source de tout ce qui vit et respire. Se découvrir respirer. Cette église de chair traversée par ce grand souffle. Cette invocation. Ce chant qui jaillit du cœur. Construire régulièrement cette barque d'humanité. Et que vienne le vent pour notre bien-être. Le bien-être de tous et de tout. Voilà, que chacun reçoive cette bénédiction du Père Céleste. À travers l'indigne serviteur que je suis, qui nous rappelle à chacun et chacune, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon enfant bien-aimé, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi est tout mon amour. Va vers toi, sois infiniment protégé et béni, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci à chacun et chacune.
Fin de la troisième partie.